Chapitre 2. Mordred. 1. Le Dantette les observait lorsque le gars à longs cheveux avec lequel il cheminait désormais avait attrapé Susanna par l'épaule pour lui montrer les hobes oranges qui dansaient au loin. Mordred l'avait vu se retourner en un éclair et dégainer l'un des gros revolvers du Papa Blanc. Pendant une seconde, les portes loin qu'il avait trouvées dans la maison de la ronde s'étaient mises à trembler dans la main de Mordred, tant il espérait que sa maman Merlette descendrait l'artiste. Comme elle aurait été dévorée de culpabilité. La culpabilité, tranchante comme la lame émoussée d'un couperet, oui là. Il aurait même été possible que, anéantie par l'horreur de ce qu'elle venait de faire, elle ait retourné l'arme contre sa tempe et appuyé sur la détente une seconde fois, mettant ainsi fin à sa pitoyable existence. Ça lui ferait quel effet, au bon vieux Papa Blanc, de se réveiller avec cette vision-là? Ah, les enfants, toujours en train de rêver. Rien de tout ça ne s'était produit, bien sûr. Mais il y avait eu encore bien plus à regarder. Il avait parfois du mal à voir, car ce n'était pas seulement l'excitation qui faisait trembler les jumelles. Il était à présent chaudement vêtu de plusieurs couches des vêtements humides dans de l'eau. Pourtant, il avait toujours froid. Sauf quand il avait chaud, bien sûr. Et quel que fût le cas de figure, chaud ou froid, il tremblait comme un vieux bonhomme édenté posé au coin du feu. Cet état de fait s'était progressivement aggravé depuis qu'il avait quitté la maison de Joe Collins. La fièvre grondait dans ses os comme le blizzard. Mordred, il n'avait plus faim, car Mordred avait perdu l'appétit. Mais Mordred l'avait mal, l'était maulade, maulade, maulade. En réalité, Mordred, il avait même peur de mourir. Néanmoins, il observait le petit monde de Roland avec grand intérêt, et une fois que le feu fut reparti, il le vit même encore plus clairement. Il vit la porte venir au monde, bien qu'il ne pût déchiffrer les symboles écrits sur le bois. Il comprit que l'artiste l'avait fait apparaître en la dessinant. Quel talent divin que celui-là! Mordred avait hâte de le manger, juste au cas où ce talent aurait été contagieux. Il en doutait. On surestimait beaucoup la dimension spirituelle du cannibalisme, mais quel mal y avait-il à aller vérifier par soi-même? Il surveilla leur palabre. Il la vit, elle, et comprit également. Suppliait l'artiste et le clébard, il vit ses jérémiades et ses atermoiements.
« Viens avec moi, que je ne sois pas seul. Allez, sois sympa, soyez sympa tous les deux. Bouhou !»
Et il se délecta de son chagrin et de sa rage, lorsque ses arguments furent rejetés aussi bien par le garçon que par la bête. Mordred se délecta de leur refus, même s'il savait que ça lui rendrait la tâche plus difficile, un peu plus difficile du moins. Mais quel mal pouvait réellement lui donner un jeune muet et un bafou bafouilleux une fois qu'il aurait changé de forme et lancé l'assaut? Pendant une seconde, il avait craint que, dans sa colère, elle descende ce bon vieux Papa Blanc avec son propre pistolet, et il ne voulait pas de ça. Le vieux Papa Blanc, il était à lui. C'était la voix de la tour sombre qui le lui avait dit. Sûr qu'il était maulade, peut-être même en train de mourir, mais le vieux Papa Blanc n'en restait pas moins son repas à lui, pas celui de Maman Merlette. Car enfin, elle laisserait la viande pourrir sans même en goûter une bouchée. Mais elle n'avait pas tiré. Elle l'avait embrassé à la place. Mordred n'avait pas voulu voir ça, ça lui donnait la nausée, et il avait préféré poser les jumelles. Il était étendu dans l'herbe, au milieu d'un petit bosquet d'aulnes, à trembler, entre chaud et froid, à essayer de ne pas vomir. Il avait passé la veille à gerber et à chier toute la journée, lui semblait-il, jusqu'à s'en faire mal aux muscles du ventre, à force d'envoyer la purée dans deux directions à la fois. Et il ne lui sortait rien d'autre de la gorge que des filets de bave épais et de son derrière que du jus marron et de longs pets rauques. Lorsqu'il avait repris les jumelles, C'était juste à temps pour voir l'arrière de la voiturette passer la porte et disparaître, emmenant maman Merlette. Il y avait eu comme un tourbillon autour. De la poussière, peut-être. Pourtant, il pensait plutôt à de la neige. Et il y avait des voix qui chantaient aussi. Ce chant l'avait rendu presque aussi malade que de l'avoir embrassé le vieux papa blanc pistolero. Puis la porte avait claqué, le chant s'était tu et le pistolero était resté assis à côté, le visage dans les mains. « Bouhou, sniff, sniff !» Le bafouilleux était venu le voir et avait posé sa longue truffe sur l'une des bottes du vieux, sans doute pour le réconforter. C'était trop mignon. C'était mignon à gerber. L'aube s'était levée et Mordred avait somnolé un peu. Lorsqu'il s'était réveillé, c'était au son de la voix de vieux papa blanc. Mordred avait trouvé une cachette sous le vent et les paroles lui étaient parvenues clairement.
« Ôté, tu ne veux pas prendre au moins une petite bouchée ?»
Mais le bafouilleux ne voulait pas et le pistolero avait éparpillé la nourriture qu'aurait dû manger le petit Houken à fourrure. Plus tard, après qu'ils avaient changé de décor, le vieux papa blanc tirant le chariot que leur avait fait le robot, avançant à pas lourds entre les ornières de la route de la tour, la tête basse et les épaules courbées. Mordred avait rampé jusqu'à leur campement. Il avait effectivement mangé une partie de la nourriture jetée par terre. Elle ne pouvait pas être empoisonnée si Roland avait l'intention de la faire boulotter au bafouilleux. Mais il s'était arrêté au bout de 3 ou 4 bouchées de viande, sachant que, s'il persévérait, ses boyaux renverraient tout dehors illico, par le nord et par le sud. Et ça ne devait pas arriver. Mais s'il ne se nourrissait pas d'une manière ou d'une autre, il serait trop faible pour les suivre. Et il fallait qu'il suive, qu'il reste tout près pendant encore un petit moment. Ce serait ce soir. C'était la seule solution, car demain, vieux papa blanc atteindrait la tour sombre, et alors il serait certainement trop tard. Son cœur le lui dictait. Mordred prit la route de la tour comme Roland l'avait fait, mais encore plus lentement. De temps à autre, il se pliait en deux lorsque les crampes le prenaient par surprise, et sa forme humaine se mettait à trembler, la noirceur pointée puis reculée sous sa peau. Son lourd manteau se tendait et gonflait là où les autres pattes essayaient de surgir, puis le tissu retombait quand sa volonté triomphait et qu'il les faisait rentrer dans son abdomen, en grinçant des dents et en grognant sous l'effort. Une fois, il chia au moins 1 litre de fluide brun dans son pantalon, et une autre fois, il réussit à le baisser, mais peu lui importait où il se soulageait. Il n'avait pas été invité au bal des semailles. Le carton avait dû se perdre en route, c'est sûr. Plus tard, quand viendrait l'heure de l'assaut, il libérerait le petit roi rouge. Mais s'il le faisait maintenant, il était presque certain qu'il ne serait plus en mesure de se transformer. Il n'en aurait pas la force. Le métabolisme plus rapide de l'araignée décuplerait la maladie, comme une bourrasque violente transformant un feu de broussaille en brasier, engloutissait une forêt. Ce qui le tuait à petit feu le tuerait en un éclair. Aussi décida-t-il de se débattre. Et dans l'après-midi, il commença à se sentir mieux. Le pouls de la tour se faisait de plus en plus puissant, gagnant en force et en urgence. Il en allait de même avec la voix de son papa rouge, qui l'exhortait à approcher, qui l'exhortait à rester à portée de coups. Le vieux papa blanc n'avait pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis maintenant des semaines, car il montait la garde avec maman Merlette, aujourd'hui disparue. Mais maman Merlette n'avait pas eu à tirer ce chariot, elle, pas vrai? Non. Elle s'était juste fait porter dedans, son Altesse la reine merdeuse du royaume de la bouse. Ben voyons. Ce qui voulait dire que le vieux papa blanc était bien fatigué, même avec le pouls de la tour sombre pour le requinquer et le tirer de l'avant. Ce soir, le vieux papa blanc devrait ou bien compter sur l'artiste et le clébard pour monter la garde en premier, ou bien décider de faire le tour du cadran tout seul. Mordred pensait pouvoir supporter une autre nuit de veille lui-même, du simple fait qu'il savait que ce serait la dernière. Il ramperait le plus près possible, comme il l'avait fait la nuit précédente. Il observerait leur campement avec les lunettes portes loin du vieil homme monstre. Et quand ils seraient tous endormis, ils se transformeraient pour la dernière fois et se jetteraient sur eux. « Hip, 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 hurrah, c'est moi que v'là !» Le vieux papa blanc ne se réveillerait peut-être même pas, mais Mordred espérait que si. À la toute fin, juste à temps pour se rendre compte de ce qui lui arrivait, juste à temps pour comprendre que son fils le précipitait au pays des morts quelques heures seulement avant qu'il atteigne sa précieuse tour sombre. Mordred serra les poings et regarda ses doigts virés au noir. Il sentit cette démangeaison terrible mais jouissive sur ses flancs, tandis que les pattes de l'araignée tentaient de percer la peau. Non, pas 8 pattes, mais 7, grâce à cette espèce de vermine de maman Merlette très méchante qui était à la fois en cloque et pas en cloque, et qu'elle aille pourrir en hurlant dans l'espace Vaadash pour toujours. Ou du moins jusqu'à ce que l'un des grandioses qui rampait là-bas la trouve et lui règle son compte. Il combattait et encourageait sa métamorphose avec une égale férocité. Il finit par ne faire que la combattre, et la pulsion de se transformer s'évanouit. Il lâcha un paix de victoire, mais bien que long et nauséabond, celui-là fut silencieux. Son trou du cul était devenu un accordéon cassé qui ne pouvait plus faire de musique, mais produisait seulement des soupirs. Ses doigts reprirent leur teinte normale d'un blanc rosé et la démangeaison sur ses flancs cessa. Il avait la tête qui tournait et la fièvre lui brouillait la vue. Ses bras fins, à peine plus que des brindilles, étaient secoués de frissons douloureux. La voix de son papa rouge résonnait, parfois puissante, parfois affaiblie, mais toujours présente. « Viens à moi. Cours vers moi. Hâte donc ton double ton de corps. Vienne comme Allah, mon bon fils. Nous mettrons la tour à bas, nous détruirons toute lumière, puis nous gouvernerons ensemble les ténèbres. Viens à moi. Viens. »
2. À l'évidence, à eux trois, les trois rescapés, 4 en se comptant lui-même, ils étaient sortis du cyclone du cas. Depuis que le prime s'était retiré, on n'avait plus vu de créatures comparables à Mordred des Chênes, en partie hume et en partie issue de cette soupe riche et forte. Une créature de cet acabit ne pouvait avoir été créée par le cas pour subir une mort aussi insignifiante que celle qui la menaçait présentement. Une fièvre fatale, résultat d'un empoisonnement. Roland lui-même aurait pu lui dire que manger ce qu'il avait trouvé dans la neige, près de la grange de Dents de l'eau, n'était pas une bonne idée. Robert Browning aussi aurait pu l'en avertir d'ailleurs. Vicieuse ou pas, vrai cheval ou innommable mutant, Insolente était elle-même malade lorsque Roland avait mis fin à ses jours d'une balle dans la tête. Mais Mordred était sous sa forme araignée lorsqu'il était tombé sur le cadavre de ce qui, du moins, ressemblait à un cheval, et rien ou presque n'aurait pu l'empêcher de manger cette viande. Ce n'est qu'en reprenant forme humaine qu'il s'était demandé avec une pointe d'angoisse comment il y avait pu y avoir autant de viande sur le corps squelettique du vieux canasson de Dents de l'eau, et pourquoi cette viande était encore si chaude et moelleuse. Pourquoi le sang n'avait pas coagulé? Elle était restée en pleine tempête de neige, après tout, et ce, depuis plusieurs jours. Les restes de la jument auraient dû être complètement congelés. C'est alors qu'avaient commencé les vomissements. Puis était venue la fièvre, et avec elle la lutte contre la métamorphose, la lutte jusqu'au moment où il serait assez près de son vieux papa blanc pour l'écarteler, un membre à la fois. L'être, dont la venue était chantée par les prophéties depuis des millénaires, essentiellement par le peuple mani et le plus souvent à travers des chuchotements remplis d'effroi. Cet être qui grandirait à moitié humain et demi-dieu. Cet être qui surveillerait et assisterait la fin de l'humanité et le retour du prime.
Cet être était finalement arrivé, sous la forme d'un enfant naïf et plein de rancœur, en train de mourir d'une indigestion de viande empoisonnée. Le cas ne pouvait être mêlé à cela. 3. Roland et ses deux compagnons ne firent pas beaucoup de chemin, le jour où Susanna les laissa. Même s'il avait projeté de parcourir toute la distance avant le lendemain au coucher du soleil, Roland n'aurait pu aller bien loin. Il se sentait découragé, seul et mort de fatigue. Patrick aussi était fatigué, mais lui au moins pouvait monter à bord du chariot s'il le choisissait, et c'est ce qu'il choisit de faire pendant la plus grande partie de la journée, somnolant à certains moments, dessinant à d'autres, ou encore marchant un petit peu avant de se hisser de nouveau dans Ophat 2 afin de refaire un petit somme. Le pouls de la tour battait fort dans la tête et dans le cœur de Roland, et son chant, puissant et ravissant, est composé à présent de 1000 voix. Mais même tout ça ne suffit pas à soulager le poids qui plombait ses os. C'est alors, tandis qu'il cherchait un coin ombragé où il pourrait s'arrêter et prendre un léger repas, c'était déjà le milieu de l'après-midi, qu'il aperçut quelque chose qui lui fit momentanément oublier sa lassitude et son chagrin. Sur le bord de la route poussait une rose sauvage, en apparence la jumelle parfaite de celle du terrain vague. Elle poussait en défiant la loi des saisons. Le tout début du printemps, estimait Roland. Elle était d'un rose pâle sur les pétales extérieurs, puis fonçait progressivement jusqu'au rouge profond au centre. La couleur exacte des désirs du cœur, pensa Roland. Il tomba à genoux devant elle et pencha l'oreille vers la coupe de corail, et il écouta. La rose chantait. La lassitude demeura comme c'est le lot de l'homme harassé de fatigue, de ce côté-ci de la tombe du moins. Mais la solitude et le chagrin disparurent, du moins pour un moment. Il scruta le centre de la rose et aperçut un cœur d'un jaune si vif qu'il ne put le regarder sans en être ébloui. La porte de Gann, songea-t-il, sans trop savoir de quoi il s'agissait, mais certain d'avoir raison. Si fait. La porte de Gann, voici ce qu'elle est. Cette rose-là différait de celle du terrain vague par un aspect crucial. L'impression de maladie et les faibles voix de la discorde avaient disparu. Cette rose était éclatante de santé et gorgée de lumière et d'amour. Elle et toutes les autres. Elle devait... Elles nourrissent les rayons, n'est-ce pas ? De leur chant et de leur parfum, tout comme les rayons les nourrissent. C'est un chant de force vivant, de don et de partage diffusé par la tour. Et ce n'est que la première, la pionnière qui s'est aventurée au loin, dans Cancanoré, et il y en a des dizaines de milliers exactement comme celle-ci. Cette idée lui donna le vertige. Puis une autre pensée le remplit de colère et de peur. Le seul à l'avoir vu sur ce splendide manteau écarlate était dément. Il les anéantirait tout en un instant dès lors qu'il en aurait la liberté. Une main hésitante lui tapota l'épaule. C'était Patrick, ôté à ses talons. Le garçon pointa le doigt en direction de l'étendue herbeuse autour de la rose, puis, à grand renfort de gestes, mima un repas. Il désigna ensuite la rose et fit mine de dessiner. Roland n'avait pas très faim, mais l'autre idée du garçon l'enchantait beaucoup plus. « Oui, dit-il, nous allons manger un morceau ici, et je ferai peut-être une petite sieste pendant que tu dessines la rose. Tu voudras bien en faire deux, Patrick ?» Il tendit les deux doigts restants de sa main droite pour s'assurer que Patrick avait compris. Le jeune garçon fronça les sourcils et pencha la tête, ne comprenant visiblement toujours pas. Ses cheveux reposaient à présent sur une de ses épaules, en un bandeau luisant. Roland se remémora Susanna en train de laver cette chevelure dans un ruisseau, malgré les cris de protestation de Patrick. C'était exactement le genre de chose que Roland lui-même n'aurait pas pensé à faire, mais il lui fallait admettre que le gaillard avait bien plus belle allure ainsi. Tandis qu'il contemplait la chevelure brillante, il sentit combien Susanna lui manquait, en dépit du chant de la rose. Elle avait mis de la grâce dans la vie de Roland, et ce mot ne lui était venu qu'une fois qu'elle était partie. Et voilà qu'il se retrouvait en face de Patrick, artiste de génie, mais animal terriblement lent au démarrage. Roland désigna son bloc, puis la rose. Patrick hocha la tête. Jusque-là, il saisissait le principe. Puis Roland leva deux des doigts de sa main valide et les pointa de nouveau vers le bloc. Cette fois-ci, une lueur éclaira le visage de Patrick. Il pointa le doigt vers la rose, vers le bloc, vers Roland, et enfin vers lui-même.
« C'est ça, mon grand, » acquiesça le pistolero. « Un dessin de la rose pour toi et un pour moi. C'est une bonne idée, non ?»
Patrick opina avec enthousiasme, se mettant au travail pendant que Roland préparait la boustifaille. Une fois encore, Roland servit trois assiettes, et une fois encore, Othé refusa sa part. Lorsque Roland planta son regard dans les yeux cerclés d'or du bafouilleux, il y vit un vide affreux, comme un deuil, qui le blessa cruellement. Et Othé ne pouvait pas se permettre de sauter trop de repas, il était déjà bien maigre. « Effiloché jusqu'à la corde », aurait dit Cuthbert, sans doute avec le sourire. Il lui aurait fallu des sassafras chauds et des sels, mais le pistolero n'avait pas de ça sur lui.
« Pourquoi fais-tu cet air-là ? »
demanda sèchement Roland au bafouilleux.
« Si tu voulais partir avec elle, tu aurais dû le faire quand tu en avais l'occasion. Pourquoi poser sur moi ce regard de houken triste maintenant ?»
Othé le considéra pendant quelques secondes encore, et Roland vit qu'il avait blessé le petit bonhomme. C'était ridicule, pourtant on ne peut plus vrai. Othé s'éloigna, sa petite queue en tire-bouchon entre les jambes. Roland eut envie de le rappeler, mais ça aurait été encore plus ridicule, n'est-ce pas? Qu'avait-il l'intention de faire? Présenter ses excuses à un bafou bafouilleux? Il se sentait en colère contre lui-même et mal à l'aise, sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé avant d'arracher Eddie, Susanna et Jake du côté Amérique pour les tirer dans sa vie. Avant leur venue, il ne ressentait presque rien. Et si c'était une façon étroite de vivre, par certains aspects, elle n'était pas si mal. Au moins, ne perdait-on pas son temps à se demander s'il fallait présenter ses excuses à des animaux pour leur avoir parlé un peu durement par les dieux. Roland s'accroupit près de la rose, se fondant dans le flot puissant et apaisant de son chant, et dans l'éclair brillant et saint, de son cœur. Puis Patrick lui lança un coup de klaxon et lui fit signe de s'écarter, afin que le jeune garçon pût voir et dessiner la fleur. Ce qui ne fit qu'ajouter au sentiment de dislocation et de mécontentement du pistolero, mais il changea de position sans un mot de protestation. Après tout, n'avait-il pas demandé lui-même à Patrick de la dessiner? Il ne put s'empêcher de penser que, si Susanna avait été là, leurs regards se seraient croisés, et qu'ils auraient souri avec cet air de compréhension amusée qu'ont les parents devant le petit manège de leur jeune enfant. Mais elle n'était pas là, bien sûr. Elle était la dernière d'entre eux, et à présent elle avait disparu, elle aussi.
« D'accord. Maintenant tu la vois-tu un tantinet mieux, ta petite rose ?»
demanda-t-il en essayant d'avoir l'air comique, mais en réussissant seulement à avoir l'air en colère et épuisé. Patrick au moins ne réagit pas au ton sec du pistolero.
Il n'a probablement même pas intuité ce que je viens de dire, en conclut Roland.
Le jeune muet s'assit les pieds croisés, le bloc en appui sur les cuisses, son assiette encore à moitié pleine posée à côté de lui.
« N'en oublie quand même pas de manger, » recommanda Roland. « Écoute ce que je te dis maintenant. »
Il ne reçut pour toute réponse qu'un regard distrait et abandonna la bataille.
« Patrick, je vais somnoler un peu. L'après-midi sera long. » Et la nuit encore plus, ajouta-t-il en pensée. Et pourtant sa consolation était la même que celle de Mordred. La nuit prochaine serait sans doute la dernière. Il ne savait pas avec certitude ce qui l'attendait dans la tour sombre au bout de son champ de roses, mais même s'il réussissait à venir à bout du roi cramoisi, il avait l'intuition que c'était là sa dernière marche. Il ne pensait pas devoir un jour quitter Cancanoré, et ça lui allait. Il était très fatigué, et en dépit du pouvoir de la rose, il était triste. Roland de Gilead posa un bras sur ses yeux et s'endormit immédiatement.